Nouveaux paradigmes, nouvelles politiques, quels outils pour penser et produire autrement à l'échelle mondiale et locale?
Hélène Combes, Observatoire de la décision publique, cofondatrice du réseau FAIR, forum pour d'autres indicateurs de richesse. Vers une transformation radicale.
Donc je propose deux clés d'entrée, une d'actualité en France, mais plus globalement sur la question donc de la mesure de la richesse, et deuxièmement, effectivement, une réflexion sur si on veut évaluer en développement durable, dans quelle posture on doit se mettre. Voilà. Alors. Premier élément d'actualité, c'est le rendu du rapport de la Commission pour la mesure de la performance économique et du progrès social, une commission dite commission Stiglitz, qui a été mise en place l'année dernière par le président de la République française, mais dans le cadre de sa présidence européenne, pour effectivement travailler sur la refonte du produit intérieur brut du PIB. Donc, le rapport est en cours de rendu. Il aura un avantage, c'est qu'enfin, cette commission internationale va affirmer ce qu'on est très nombreux à dire à travers le monde, mais qui n'avait pas beaucoup d'écho, c'est que le produit intérieur brut, qui est censé mesurer la richesse du monde, nous a emmenés dans le mur. Et effectivement, comme disait Patrick Vivret, c'est un thermomètre qui nous rend malade. Je ne sais pas si c'est clair pour vous tous, mais le PIB, c'est un indicateur qui compte surtout les flux financiers. Et donc, on nous dit généralement que quand le PIB est haut, tout va bien. Et si je donne un exemple, là aussi, par rapport à la France, mais qui parlera à tout le monde, donc l'accident d'un gros pétrolier qui s'appelait l'Erika, il y a quelques années, qui s'est échoué sur les côtes de Bretagne, eh bien, jamais la France n'a eu un PIB aussi fort qu'à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le PIB compte les flux. Donc, on a eu le flux d'argent de la réparation, des assurances. Donc, effectivement, donc une montée de notre PIB, puisque le PIB ne compte pas la destruction, et donc en l'occurrence la destruction écologique. En développement durable, on se rappelle qu'il n'y a pas d'évaluation sans vision, et donc que les indicateurs sont l'ultime outil d'un processus qui va nous amener à construire la vision, puis effectivement le projet qu'on veut avoir, et à la fin les indicateurs. Et pour construire une vision en développement durable, il me semble qu'il faut qu'on se dise aujourd'hui ce qu'on cherche dans le monde en crise, avec un S effectivement que nous avons à gérer. Côté FAIR, nous disons que nous voulons passer d'une société du beaucoup avoir pour quelques-uns à une société du bien vivre pour tous, ensemble, dans un monde préservé et partagé. Et ne nous laissons pas avoir par ceux qui nous diront le qualitatif, c'est subjectif. Parce que qu'est-ce qui est plus subjectif que le PIB ? Le PIB, c'est un indicateur qui a été créé par des économistes il y a quelques décennies, et ils ont décidé tout seuls que le temps qu'on passait auprès de nos enfants en éducation ne comptait pas. Ils ont décidé qu'on compterait pas la destruction, etc., etc. Donc c'était subjectif. Donc ne nous laissons pas prendre quand on nous dira que le qualitatif c'est subjectif. Mais ça veut dire effectivement une posture très particulière de transformation radicale. Et on nous parle souvent d'éléments qui ne vont être que des éléments d'ajustement. On va mettre un peu d'écologie dans le PIB, mais du coup, ça veut dire qu'on ne changera rien, on sera toujours sur notre élément d'adaptation. Et bien, quand on est sur les quotas carbone d'entreprise ou sur la compensation carbone des individus, quand on prend l'avion, on est dans un monde qui ne change pas. C'est-à-dire, on ne change rien, et on se donne bonne conscience, et on paye. Également, il me semble qu'en développement durable, ce qui va être important, ce n'est pas tant de se comparer aux autres. Parce que je pense qu'il n'y a pas un, mais il y a des développements durables. Il y a des questions. Les questions sont les mêmes pour tout le monde, mais les réponses à donner ne sont pas forcément les mêmes, suivant les endroits, suivant les lieux dont on parle. Et donc, ce qui va être important, ça va être de la comparaison dans le temps. Une évaluation continue avec toutes les parties prenantes. Une évaluation à faire par les acteurs eux-mêmes. Moi, je conteste l'idée, y compris quand j'étais cabinet d'études, je conteste l'idée que le tiers extérieur a plus de valeur pour faire de l'évaluation. Ce qui va être important, c'est d'avoir des tables rondes avec des parties prenantes différentes, et là, l'exigence sera là. Et effectivement, on pourra évaluer ensemble. Et ça veut dire, effectivement, aussi, c'est une des grandes transformations en développement durable, que nous changeons notre rapport à l'expertise. En développement durable, l'expertise des savoirs a la même valeur, mais pas plus que l'expertise du vécu.
Anaïs Jacobi, chargée de mission de la couveuse Intermed. Le rapport sociétal, l'économie sociale et solidaire.
Voilà, donc moi, pour ma part, effectivement, je suis ni du milieu de la culture, ni une artiste plasticienne, plutôt du milieu entrepreneurial, mais un milieu entrepreneurial qui est quand même porteur de valeurs fortes. Donc le rapport sociétal, je vais vous faire un rapide historique, simplement pour que vous puissiez aussi resituer cet outil. Ça part au niveau de février 2002, loi de nouvelles régulations économiques, article 116, qui dit que toute entreprise cotée en bourse doit s'engager à publier des informations dites sociétales. C'est-à-dire, par exemple, doit publier les chiffres par parité homme-femme, des éléments sur la sécurité. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Donc si certains d'entre vous sont actionnaires de grandes sociétés cotées en bourse, vous recevez un rapport d'activité classique, et puis soit couplé avec un rapport sociétal ou séparé, etc., qui a vocation à mettre en valeur des indicateurs extra-financiers. Voilà, donc ça peut être, on forme nos salariés, etc. Voilà. Par rapport à la dynamique de changement, moi je pense effectivement que c'est une énorme dynamique de changement. Je me rappelle, c'était, je crois, mercredi, enfin, les jours derniers, il y avait cette idée-là de se dire, est-ce que le développement durable, c'est tout changer, ou est-ce que c'est s'inscrire dans ces pratiques et se dire que on peut rester comme on est, mais en évoluant petit à petit. Moi, je pense que le rapport sociétal, justement, c'est exactement ça. C'est pas vouloir tout changer d'un coup, bien au contraire, parce que je pense que c'est là que ça marcherait pas. Mais c'est de se dire, voilà, nous, on est comme ça aujourd'hui, et réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut s'améliorer, ancrer ces pratiques dans un vrai axe de progrès. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un outil du changement qui a le mérite aussi de poser les choses par écrit. Donc c'est un vrai engagement, engagement aussi public parce que c'est diffusé, et collectif.
Béatrice Tonini, ADEM, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Accompagnement vers de bonnes pratiques, éco-communication, éco-événements.
Nous travaillons sur des secteurs transversaux tels que l'éco-conception, le management environnemental, la responsabilité sociale et environnementale dans les entreprises. Notre rôle, c'est d'accompagner tous les acteurs du monde économique, à la fois sur le plan méthodologique et financier, dans la mise en œuvre de bonnes pratiques. Donc, au niveau de l'ADEME travaille donc au niveau national et dans plusieurs régions sur le thème des éco-événements et des éco-festivals. Par exemple, nous avons les outils qui pourraient être intéressants pour la plupart d'entre vous sont le guide de l'éco-communication qui a été publié chez Erol. Nous avons travaillé sur le projet EcoPub qui est la mise en place d'un logiciel de mesure des impacts d'une campagne de publicité. Bon, les festivals en utilisent, enfin, mettent en œuvre, il y a des campagnes de pub qui accompagnent la promotion d'un festival. Donc un logiciel EcoPub qui a été mis en place avec Havas au niveau national. Le site éco-événement qui a été mis en place avec l'ANAE, donc l'Association nationale des agences événementielles. Nous travaillons sur la charte internationale des éco-festivals qui est en train de se mettre en œuvre. C'est un réseau. Il y a aussi un travail, ça c'est les entreprises culturelles, pas forcément du secteur des festivals, mais du cinéma, sur les éco-tournages. C'est notamment Île-de-France et Poitou-Charentes qui sont leaders, mais nous commençons aussi à travailler là-dessus en PACA, avec le prix DES Images. Au niveau de l'ADEME, nous mettons en place d'ici la fin de l'année sur le site internet de l'ADEME national un site éco-communication, éco-événement, où il y aura tous les outils qui existent sur le sujet, plus des grilles d'auto-diagnostic et d'auto-évaluation qui pourront être utilisées par chacun des acteurs. Nous proposons aussi des formations au niveau national qui peuvent être déclinées en région sur plusieurs thèmes qui peuvent vous intéresser, comme l'éco-communication, c'est-à-dire comment bâtir un plan de communication en réduisant ses impacts. Enfin, objectif, c'est laisser son empreinte dans les esprits et pas sur l'environnement. Et ensuite, des formations aussi bilan carbone qui peuvent vous intéresser, parce que c'est un sujet sur lequel pas mal de festivals se tournent, vers lequel pas mal de festivals se tournent.
Stéphanie Glanchard et Frédéric Broski, des directions de la culture et de l'environnement de la région PACA. Le réseau Agir est le nouvel appel à projet culture et développement durable.
Donc Agir, c'est action globale innovante pour la région. En fait, c'est venu tout simplement, ça s'appelle en réalité altéritaire, mais bon, ça se dit pas forcément. Donc c'est les élus qui ont décidé certains élus qui ont décidé quand ils ont su que la région allait mettre 70 millions d'euros dans le projet ITER, donc le projet de fusion nucléaire, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. se sont dit, nous, non, on n'est pas d'accord, le nucléaire, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc, on veut 1 euro pour les énergies renouvelables quand il y a 1 euro pour ITER. Donc, ça a été accepté, ça a été voté en 2006. Donc, on a 70 millions d'euros sur Agir, sur 4 ans, ce qui est tout de même pour un budget environnemental assez colossal hein, par rapport au budget classique. On est 18 personnes au service énergie pour mettre en œuvre ce budget. Et donc, on travaille essentiellement par appel à projet. Et des appels à projet qui ne sont pas, élaborés seulement au sein de notre service, des appels à projet qu'on souhaite en transversalité avec les autres directions. Et donc, le tout dernier, c'est celui avec la culture. Voilà. Je pense que Frédéric va vous présenter les tenants aboutissants de l'appel à projet.
Donc, je vous présente l'appel à projet Direction de la culture, Direction de l'environnement. Donc, cet appel à projet va s'appeler l'amélioration des performances environnementales des sites et équipements culturels en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le but et les objectifs de cet appel à projet, c'est de permettre aux opérateurs culturels de s'inscrire dans une approche environnementale ambitieuse et aussi adaptée à leur activité. Et c'est aussi de permettre aux opérateurs culturels de sensibiliser le public à ces questions et d'inscrire leurs pratiques culturelles comme quatrième pilier du développement durable. Et c'est un appel à projet qui portera sur 2 millions d'euros à compter de la semaine prochaine au titre de la direction, au titre du conseil régional.
Hélène Thévenot, chef de projet Med to Europe. Le développement durable dans les programmes européens.
Oui, donc bonjour à tous. Moi, effectivement, je représente Med to Europe. En fait, on est le contact pour les PME locales d'un réseau qui s'appelle Réseau Entreprises Europe, mis en place par la Commission européenne, dans le but d'aider toutes les PME européennes à se développer sur ce grand marché qu'est l'Europe. Alors, au niveau de la Commission européenne, le développement durable a une place importante puisque une stratégie européenne lui est consacrée. Donc, cette stratégie, en fait, ça date de 1992 avec le sommet de Rio où les premiers prémices ont été lancées et ça a été repris dans une stratégie formalisée en 2001 puis en juin 2006. Puisqu'en fait, de tout ça, et puis d'autres stratégies que peuvent avoir l'Union européenne, vont découler beaucoup de choses qui nous concernent. Par exemple, vous avez peut-être entendu, à partir du 1er juillet, sont interdites les ampoules à incandescence de plus de 100 watts, il me semble. Bon, ben ça vient d'où ? Ça vient d'une directive européenne, à la base. Alors, je vais vous parler un petit peu des programmes européens. Ça va peut-être vous sembler très, très loin. Je vais essayer de faire très simple pour vous montrer les aspects positifs et puis les bémols par rapport à ces programmes européens. Et c'est sûr que c'est beaucoup moins accessible que ce que peuvent proposer l'ADEME ou la région en termes de financement. Mais bon, je pense que c'est important de savoir que ça existe. Donc quand on parle de programmes européens, en général, ce sont des programmes qui impliquent le plus souvent des multipartenaires venant de plusieurs pays. Souvent, c'est 2, 3, 4, voire plus pour un travail de collaboration entre pays. Ça se passe suite à des appels à propositions. Donc, pour un programme donné, vous allez avoir tous les ans, ou bien une fréquence irrégulière, un appel à proposition avec un programme de travail détaillé auquel vous pourrez répondre. Ce sont des subventions qui vont en général de 50 à 80%. On est plus souvent dans les 50%. Et dans tout projet qui sera soumis à la Commission européenne, il y a obligatoirement un volet développement durable. De même qu'il y aura un volet innovation, de même qu'il y aura un volet égalité hommes-femmes, qui reprennent un petit peu toutes les politiques européennes. Donc le développement durable, quelque part, si vous n'en faites pas, c'est même pas la peine de répondre à un programme européen.